Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La foi de l'Église s'exprime dans toutes les langues et veut unir les peuples en une seule famille. Le pape François l'a affirmé à l'occasion de la solennité des saints Pierre et Paul, fête de l'Église de Rome. Le Saint-Père s'est clairement prononcé en faveur d'une plus grande harmonie entre le synode des évêques et l'exercice de la primauté. Puis à l'Angélus, il a invité à prier pour la République centrafricaine en proie à l'insécurité. C'est la une de ce magazine. Vous entendrez également le témoignage d'un archevêque cycliste et en fin d'émission, ne manquez pas le commentaire de l'Évangile. La solennité des saints Pierre et Paul, patrons principaux de l'église de Rome, le pape François a présidé une concélébration eucharistique ce samedi matin dans la basilique Saint-Pierre. Comme chaque année à la même date, il a remis le pallium aux nouveaux archevêques. Ils étaient 34, dont l'archevêque de Bangui, la capitale de la Centrafrique. Symbole de la communion et de l'unité de la hiérarchie catholique, le pallium est un ornement liturgique porté sur la chasuble par le pape, les primats et les archevêques métropolitains. Comme chaque année, une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople assistait à la célébration, une délégation conduite par le métropolite de Pergame, Jean Zizioulas, coprésident avec le cardinal Cor de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre les églises catholiques et orthodoxes. Cette année, le chœur de Leipzig, l'église de Bach, a contribué à animer la liturgie, renforçant la portée œcuménique de la célébration. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que l'évêque de Rome avait pour mission de confirmer dans la foi, dans l'amour et dans l'unité le compte-rendu d'Olivier Tosserie.
La mission de l'évêque de Rome réside en un mot, confirmer. C'est ce mot que le pape François a décliné et expliqué au cours de son homélie. Il est appelé tout d'abord à confirmer dans la foi. « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », annonce le Christ à Pierre. Et c'est la confession de foi en Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui constitue le fondement de son service ecclésial. Un service qui doit être confirmé dans l'amour. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai conservé la foi », déclare saint Paul. Il le fait avec la seule arme qui vale, celle de l'Évangile. L'évêque de Rome est ainsi appelé à le vivre et à le confirmer dans cet amour pour le Christ et pour tous, sans distinction, limite ni barrière. Mais que serait cette mission si elle n'était appelée à être confirmée dans l'unité? C'est la troisième dimension de ce verbe qui résume le ministère pétrinien. Le pape l'a rappelé, l'unité de foi et de communion est primordiale, mais cela ne signifie pas uniformité. François use alors d'une métaphore.
Nella Chiesa, la varietà, che è una grande ricchezza, si fonde sempre nell'armonia dell'unità.
Dans l'Église, la variété, explique-t-il, est une grande richesse. Elle se fonde sur l'harmonie de l'unité, comme une grande mosaïque dans laquelle les tesselles s'assemblent pour former l'unique grand dessein de Dieu. Un dessein qui doit pousser les chrétiens à dépasser toujours les conflits qui blessent le corps de l'Église. Unis dans la différence, voilà la route de Jésus, conclut François.
Et le pape François a estimé qu'il fallait s'engager sur le chemin de la synodalité en harmonie avec le service de la primauté. Il a par ailleurs exhorté les chrétiens à se laisser instruire et guider par la foi et par Dieu et à ne pas laisser prévaloir leurs pensées, leurs sentiments ou la logique du pouvoir humain. Et à l'Angélus, avec les fidèles rassemblés à midi sur la place Saint-Pierre, le pape François a profité de la présence de l'archevêque de Bangui venu recevoir le pallium pour encourager le peuple centrafricain durement éprouvé à cheminer avec foi et espérance. Poursuivant par ailleurs sa réflexion sur le sens de la fête des saints Pierre et Paul, il a souligné que c'est parce qu'elle est fondée sur le martyre de ces deux apôtres glorieux que l'église de Rome est devenue spontanément, dès le début, le point de référence pour toutes les églises du monde, non pas en vertu du pouvoir de l'Empire, mais en vertu de la force du martyr, du témoignage rendu au Christ. Le Seigneur est miséricordieux, a-t-il rappelé, et il nous pardonne toujours. Le Saint-Père a chaleureusement salué la délégation orthodoxe venue de Constantinople et il a invité les catholiques à prier pour le patriarche Bartholoméos Ier et pour son Église. Dans un message de vœux pour la fête des saints patrons de l'Église de Rome, le patriarche œcuménique de Constantinople salue la simplicité et la charité du nouveau pape en souhaitant qu'elles orientent l'Église vers les dimensions essentielles de la légalité, de la justice et de la miséricorde. Tout en reconnaissant que des obstacles jalonnent encore le chemin vers l'unité des chrétiens, Bartholoméos Ier souhaite que le dialogue entre l'Église catholique romaine et le christianisme orthodoxe se poursuive, un dialogue d'amour, de théologie et de vérité. Cette année, la fête des saints Pierre et Paul devait s'achever par une girandole au château Saint-Ange en l'honneur du pape François et au profit de l'achat d'équipements pour l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome. Il s'agit d'un spectacle de feux d'artifice traditionnel qui attire chaque année un public nombreux. Vous l'avez entendu, le pape François a eu des paroles d'encouragement pour la Centrafrique qui est en proie à l'insécurité du fait des exactions de certains éléments de la CELECA, la coalition qui a pris le pouvoir il y a 3 mois. Selon RFI, des tirs et des pillages se sont produits vendredi à Bangui, la capitale. Les protestations des jeunes du quartier de Gobongo, après la mort de l'un des leurs, ont été réprimées dans le sang par des éléments de la CELECA. Toujours selon Radio France Internationale, une réunion de haut niveau a eu lieu à la présidence vendredi soir pour essayer de trouver une solution à cette insécurité persistante. Il y a quelques jours, les évêques de Centrafrique avaient adressé un message aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Ils évoquent la grande souffrance de la population qui subit une énième escalade de violences politico-militaires. Jamais, déclarent-ils, nous n'avons connu sur notre terre un conflit aussi grave. Jamais une rébellion ne nous a drainé une aussi forte présence de combattants étrangers. Jamais une crise ne nous a fait courir un tel risque de conflit religieux et d'implosion du tissu social. Nous avions interrogé l'archevêque de Bangui, que je vous propose de réécouter.
L'étendue des dégâts par des viols, par des vandalismes, par des braquages a été énorme. Et nous avons l'impression que beaucoup des voleurs, des braqueurs, tous les prisonniers qu'on a libérés sont retrouvés dans cette armée et nous avons le résultat. Avec les détournements, avec les vols, avec les pillages organisés. Les chrétiens ont été touchés. Il y a des pères et des sœurs qui ont été violentés. Sur le plan économique, nous avons eu droit à une destruction de plusieurs entreprises. Il y a eu des vandalismes, même des agences bancaires. Il y a eu aussi des saccages des stations essence, mise à pillage même des grandes sociétés. Aujourd'hui, on a l'impression que le pays est à terre.
C'était l'archevêque de Bangui qui a reçu ce samedi le pallium des mains du pape François. L'Église catholique au Canada, quant à elle, lance à partir de ce dimanche une vaste campagne d'aide d'urgence pour les réfugiés syriens. Les sommes recueillies permettront de soutenir le travail accompli au Moyen-Orient par les organismes caritatifs et les agences de développement catholique, notamment par Caritas Internationalis. Cette campagne se poursuivra tout l'été. Elle atteindra son point culminant lors d'une journée de prière et de jeûne pour la population de la Syrie et du Moyen-Orient le samedi 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Centième édition du Tour de France et pas une ride. La compétition a débuté ce samedi sous un beau ciel bleu à Porto Vecchio en Corse du Sud. Elle se poursuivra pendant près d'un mois pour s'achever par une dernière et traditionnelle étape sur les Champs-Élysées le 21 juillet. Une édition inédite puisque c'est la première fois que le Tour part de Corse qui n'avait jusqu'à présent jamais figuré dans aucune étape. La double montée de l'Alpe d'Huez s'affiche déjà comme le moment clé selon les organisateurs. Un tour comme chaque année, haut en couleur et qui permettra à des personnes du monde entier d'admirer la beauté des paysages français. Administrateur apostolique de Besançon et ancien évêque d'Ajaccio, Mgr André Lacrampe, cycliste, qui se réjouit de fêter cette année ses 30 ans d'épiscopat, s'attarde sur ses souvenirs et son affection pour le tour. On l'écoute.
Le tour s'enracine profondément profondément dans les souvenirs d'enfance. J'écoutais la voix du Tour de France avec Georges Briquet, qui, jeune, je me rendais sur les cols pyrénéens, le Tourmalet et l'Aubisque, pour voir grimper, pour saluer les exploits des champions, Polidor, Hinault, puis les sportifs actuels. Le souvenir aussi, le Tour de France, il a traversé aussi les sanctuaires il y a quelques années, permettant aux malades de voir ces géants de la route. Une France avec sa variété, ses paysages magnifiques, ses villages, ses faubourgs de ville, qui permettent aux téléspectateurs de découvrir notre pays en regardant les étapes. C'est le Tour de France, mais aussi c'est le Tour de la France. Et les prochaines heures, les prochains jours, la Corse, qui est à l'honneur, donc, va être aussi découverte par les téléspectateurs du monde entier. C'est une compétition qui rassemble, qui offre un moment de détente et de joie en cette fin de juin, ce début de juillet. Et c'est vrai que la fête du Tour de France s'est trouvée ternie avec du dopage qui s'est invité. Toutefois, moi, je pense quand même que les contrôles et la lutte contre la ficherie semblent devoir assainir cette compétition. C'est un moment de fête.
Comment porter un regard chrétien sur cette activité et sur le sport en général?
Quand nous parlons des nouveaux aéropages du monde actuel, quand nous parlons aussi de l'évangélisation, nouvelle évangélisation, nous devons inclure le sport et tout ce qui l'entoure. Et nous avons à développer certainement dans notre Église des espaces de réflexion sur cette dimension qui interroge, oui, notre être chrétien, notre regard. C'est un regard sur le corps, avec tout ce que le sport entraîne comme courage, assaise, persévérance, le sens de l'effort. Il y a une discipline personnelle qui demande de constance dans l'effort, dépassement de soi, respect des règles, respect de l'adversaire, etc. J'ai souvenir d'un échange avec un ancien capitaine du 15 de France, Michel Crost, qui est un compatriote, enfin qui est lourdais d'origine, et qui me disait, dans le sport, il y a les trois vertus théologales qui sont appelées à être vécues. Alors je lui disais, mais comment? Eh bien, il m'expliquait, la foi en soi, la foi en l'autre, la foi en Dieu, qui veut notre bonheur, notre joie. L'espérance qui aide à vaincre l'égoïsme, le repli sur soi, et la charité qui se manifeste dans la fraternité, dans le partage, dans le respect de l'adversaire. Nous avons certainement, dans l'Église, à favoriser l'éducation de la jeunesse dans les loisirs, selon une vision chrétienne de l'homme et du monde, en cohérence avec l'Évangile. Notre sens de Dieu et notre sens de l'homme trouvent là aussi un terrain privilégié pour leur mise en œuvre.
Monseigneur André Lacrampe, interrogé par Jeanne Varaldi. En Italie, la 56e édition du Festival des Deux Mondes a démarré à Spolète, un rendez-vous incontournable créé en 1958 qui a pour vocation de célébrer l'art sous toutes ses formes. Depuis l'année dernière, les spectacles sont précédés par des prédications en collaboration avec le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. L'année dernière, incroyable mais vrai, ces prédications ont attiré des centaines de personnes dans l'église Saint-Dominique, une affluence considérable malgré la chaleur estivale. Du coup, l'expérience se répète cette année. Jean-Baptiste Cocagne.
En 2012, une première édition consacrée aux sept péchés capitaux avait remporté un succès considérable. Un public nombreux était venu écouter des conférenciers de haut vol parler de l'orgueil, de la gourmandise, de l'avarice, de la colère, de la luxure, toutes ces mauvaises habitudes qu'on n'ose plus appeler péchés et qui pourtant nous empoisonnent la vie et engendrent l'angoisse, la dépression et la solitude. Cette année, les organisateurs ont décidé de proposer un cycle de conférences sur les œuvres de miséricorde spirituelle. Pour eux, il est essentiel de soutenir la culture de la rencontre et du partage. Premier intervenant ce samedi, Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pour la nouvelle évangélisation. Il a proposé une réflexion sur le thème « Conseiller ceux qui doutent ». Le doute, souligne-t-il, ne constitue pas en lui-même une attitude négative. Saint Augustin disait qu'il révèle l'aspiration à la vérité. Experte en humanité, l'Église doit être proche de ceux qui cherchent, cheminer à leur côté avec humilité et patience. Dimanche, c'est une femme qui prendra la parole, une dominicaine française que les auditeurs francophones de Radio Vatican connaissent bien. Sœur Catherine Aubin développera une réflexion intitulée « Enseigner aux ignorants ». Les jours suivants, les participants pourront écouter d'autres conférenciers bien connus, comme Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, ou le prieur de la communauté de Bose, Enzo Bianchi. En tout, cette prédication, un bel exemple de communication de la tradition chrétienne en dehors des contextes classiques.
Sœur Catherine Aubin, qui interviendra donc au Festival de Spolète et qui, exceptionnellement, ne nous présentera pas cette semaine sa rubrique hebdomadaire consacrée au livre pour Dieu, Sœur Catherine Aubin, eh bien nous la retrouverons dès demain dans ce magazine. Les secrétaires des conférences épiscopales d'Europe sont réunis jusqu'à dimanche à Varsovie pour discuter de la mission évangélisatrice de l'Église dans le contexte actuel marqué par la crise économique et la crise des valeurs, une crise profonde selon les participants, mais aussi par des signes d'espoir. Cette rencontre annuelle revêt une importance particulière puisqu'elle intervient 10 ans après la publication de l'exhortation apostolique de Jean-Paul II « Ecclesia in Europa » et dans le cadre de l'année de la foi. L'accent a été mis sur la défense de la famille dans le débat public, à la lumière notamment des récents événements en France autour de la loi Taubira. Les participants ont insisté sur la nécessité, en ces temps difficiles, de dialoguer non seulement avec la société, mais aussi avec les individus qui sont aujourd'hui en proie à l'inquiétude. Il faut retrouver le courage d'évangéliser le monde moderne en se servant des moyens de communication actuels comme Internet et les réseaux sociaux. La soirée de vendredi a été marquée par une veillée de prière publique pour l'Europe. Et c'est l'heure de retrouver le Père Pascal Montavis pour le commentaire de l'Évangile de ce dimanche 30 juin, le 13e du temps ordinaire. C'est l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le règne de Dieu. »
Jésus prend courageusement la route de Jérusalem. Il sait que dans la ville sainte, il sera arrêté, condamné, puis mis à mort. Mais Jésus n'est pas seul. Il envoie devant lui des messagers pour préparer sa venue. Toutefois, un village de Samarie refuse de l'accueillir car il monte vers la ville ennemie, Jérusalem. Face à ce rejet, Jacques et Jean réagissent fortement, tout façonnés qu'ils sont par les récits de l'Ancien Testament. Comme le prophète Élie l'avait fait autrefois sur les gardes envoyés par le roi Ocosias, ils veulent ordonner au feu de descendre du ciel et de consumer ce village samaritain rebelle. Jacques et Jean ne doutent donc pas de leur autorité sur les éléments de la création. Mais il leur manque cependant l'assentiment de Jésus. Sans cela, ils ne peuvent rien. Jésus saisit cette occasion pour montrer qu'il n'est pas venu détruire ou anéantir ceux qui le rejettent. C'est un enseignement nouveau par rapport à l'Ancien Testament. Il n'y a plus d'anathème où tous ceux qui s'opposent à Israël doivent être passés au fil de l'épée. Désormais, c'est le temps de la miséricorde. Jésus est venu parmi les hommes afin qu'ils reçoivent le salut. Certes, il y aura un jugement à la fin des temps, mais d'ici là, Dieu attend inlassablement la conversion de tous. Une première personne s'adresse à Jésus. « Je te suivrai où que tu ailles. » Jésus répond, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Jésus met en garde contre les difficultés à venir. Le futur disciple a posé une promesse, « Je te suivrai. » Il s'engage pour l'avenir. C'est un acte courageux qui témoigne de la dignité de l'homme. Mais Jésus prévient, celui qui s'engage pour le servir doit savoir que le chemin sera difficile. Le futur que Jésus promet sur terre est aussi un chemin de croix. Dans un second temps, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à un autre et lui dit « Suis-moi ». Mais ce dernier souhaite auparavant aller enterrer son père. Jésus lui répond, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi, va-t'en annoncer le royaume de Dieu. » C'est Jésus, cette fois, qui prend l'initiative. Il appelle dans le présent, afin que celui qui est appelé mette en pratique, immédiatement, la parole reçue. Suivre Jésus, dans le présent, le quotidien, c'est choisir la vie et laisser les morts aux morts. Suivre le Christ, c'est donc refuser de se retourner vers le passé, vers les oignons d'Égypte, qui pourraient sembler meilleurs que la manne au désert. Suivre le Christ, c'est entendre dans le présent « Suis-moi » pour partir annoncer le règne de Dieu. Suivre le Christ, c'est savoir que le futur ne sera pas exempt d'épreuves, mais que le Seigneur continuera chaque jour à nous dire « Suis-moi ».
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi, mais je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Si vous avez des questions ou des idées, écrivez-nous à magfra@vatiradio.va. Bon dimanche à tous.